Bonjour à tous. Bonjour Daniel. Alors ce matin, j'ai un chouette programme pour vous. On va simplement découvrir un peu mieux qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il attend de nous. Voilà pour le programme. Après, concrètement, quel texte on va lire? Vous allez le découvrir, même si vous avez déjà lu le feuillet où il y a écrit le texte dessus. Mais je vais d'abord vous poser une question. Et je vais poser la première question à tous. Quel est le point commun entre Lance Armstrong et Jérôme Cahuzac?
Ils ont triché.
Le point commun entre Lance Armstrong et Jérôme Cahuzac. Tout le monde connaît les deux ou pas?
Il y en a un qui court en vélo.
Il y en a un qui court en vélo, qui courait en vélo.
Oui, qui courait.
Voilà. Donc, et l'autre, ancien ministre. Quel est le point commun entre l'ancien cycliste Lance Armstrong et l'ancien ministre Jérôme Cahuzac?
Il
n'y en a pas. Si, il y en a au moins un. Il y en a au moins un. Tu l'as dit, ils ont pêché, ils ont triché. Mais là où je voulais être plus précis, c'est sur le fait que à un moment donné, ils étaient célèbres, ils étaient admirés, ils étaient populaires ou reconnus comme performants dans leurs compétences respectives. Ils étaient au sommet de leur art. On leur promettait, soit ils avaient déjà eu un avenir glorieux, soit on leur promettait un avenir politique, dans ce cas-là, radieux. Et ces deux personnes, en l'espace d'une période de temps très courte, elles ont chuté et se sont retrouvées à zéro. L'un a été pris pour dopage, l'autre pour fraude fiscale, et en très peu de temps, boum, ils ont chuté. Et leur popularité est retombée à zéro. Quel est le point commun entre Lance Armstrong, Jérôme Cahuzac et le roi Saül? Vous l'aurez compris, la manière dont on peut très rapidement être au summum et en quelques instants à peine être à zéro. Est-ce que Daniel, tu pourrais nous lire le premier et le dernier verset de 1 Samuel 15? Juste le premier et le dernier.
Samuel dit à Saül: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel.
C'était le tout premier verset d'1 Samuel 15.
Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel avait pris le deuil sur Saül, parce que l'Éternel avait eu du regret d'avoir fait régner Saül sur Israël.
Que de bouleversements, merci Daniel, que de bouleversements entre ce premier verset où Saül est le roi à qui Dieu s'exprime et à qui Dieu donne des missions, le top, et le dernier verset où Samuel boude Saül et Dieu regrette le roi Saül. Que de changements en à peine un chapitre. Comment ce roi, choisi par Dieu, a-t-il fait en à peine un chapitre pour perdre toute autorité, toute popularité et toute bénédiction de la part de Dieu? Comment a-t-il pu donc faire pour perdre tout ça en l'espace d'un seul chapitre? On va lire ensemble ce chapitre pour répondre à cette question. Comment un roi fait-il pour perdre d'un seul coup toute autorité, popularité et bénédiction? Et Daniel, tu vas nous lire en entier, accrochez-vous, 1 Samuel 15.
Samuel dit à Saül: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et vouez à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. Saül battit le rappel du peuple et le dénombra à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il prit vivant Agab, roi d'Amalek, et voua à l'interdit tout le peuple en le massant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agab ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail et dans les bêtes de seconde portée. Ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l'interdit, et ils louèrent à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. La parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en Sénat. Je regrette d'avoir établi Samuel pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On lui rapporta, Saül est allé à Carmel et s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai exécuté la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de petit bétail qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de gros bétail que j'entends ? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné tout ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu et le reste nous l'avons voué à l'interdit. Samuel dit à Saül, assez, je vais t'annoncer ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas donné l'onction comme roi sur Israël? L'Éternel t'avait mis sur le chemin en disant, va, et voue à l'interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur ce butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin sur lequel l'Éternel m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à l'interdit. Mais le peuple a pris sur le butin du petit et du gros bétail comme prémisse de l'interdit, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car la rébellion vaut bien le péché de 10 nations, et la résistance vaut l'injustice et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes propres paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter, et il la donne à un de tes proches qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'a pas de regret, car il n'est pas un être humain pour éprouver du regret. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je t'en prie, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel revint et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux, il se disait, certainement l'amertume de la mort est écartée. Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit en pièces Agag devant l'Éternel à Gilgal. Et Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa, dans la maison de Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel avait pris le deuil sur Saül, parce que l'Éternel avait eu du regret d'avoir fait régner Saül sur Israël.
Merci Daniel pour cette longue lecture et merci de vous être pas endormi pendant cette longue lecture. Quel chapitre d'un Samuel 15. Alors, pour la première partie, avant de décortiquer ce texte ensemble, quelques mots sur le contexte, rapidement. Saül, vous savez que c'est le premier roi d'Israël, le tout premier à régner sur ce peuple d'Israël, et c'est un roi bon, que Dieu avait nommé, mais que le peuple avait demandé. Vous vous en souvenez, le peuple était jaloux des peuples voisins qui avaient un roi et voulait également avoir un roi à soi pour être dirigé, pour eux. Il voulait un roi. Donc Saül, premier roi d'Israël, demandé par le peuple, mais je vous propose de ne pas jeter la pierre au peuple d'Israël. Nous aussi, dans nos vies, nous avons tendance à donner à d'autres la royauté que Dieu mérite. Quoi qu'il en soit, nous sommes au début du règne de Saül. Le début du règne, c'est 1 Samuel 13. On a déjà eu quelques guerres, on a eu quelques tensions avec le prophète Samuel, quand Saül accuse le prophète Samuel d'être en retard. On a aussi quelques mauvaises déjà décisions de Saül, qui a failli tuer son propre fils Jonathan, parce que Jonathan avait eu le culot de gagner, de faire un exploit pour gagner une bataille, mais il avait eu le malheur de manger un peu de miel. Et Saül allait le trancher en pièces quand le peuple a dit « Eh oh, laisse Jonathan tranquille ». Voilà un peu pour le contexte de 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, et nous arrivons donc à 1 Samuel 15, où on voit donc une grande bataille entre Israël d'un côté et le peuple amalécite de l'autre. Le peuple amalécite étant une tribu nomade qui s'était opposée à Dieu, au peuple d'Israël, quand celui-ci était sorti d'Égypte et était arrivé en terre promise. Et donc, ici, cette grande bataille est tout simplement l'accomplissement d'une promesse, d'une menace qu'avait fait Dieu en Exode 17 quand le peuple amalécite s'était attaqué à Israël qui venait d'arriver tout juste. Exode 17, verset 16, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Dieu avait promis de prendre une revanche sur ce peuple et il le fait ici à travers Samuel, à travers Saül. Et il demande d'exterminer ce peuple, cette tribu rebelle. Non seulement d'attaquer, non seulement de défaire et de mettre une bonne rouste, mais d'exterminer jusqu'à la dernière vie de ce peuple. Les Amalécites payent à prix très 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 fort leur opposition à Dieu. Un prix total. Ils s'étaient opposés à Dieu plusieurs générations, et aujourd'hui, il y a un jugement pour eux. Et cela nous rappelle, aujourd'hui, à nous, frères et sœurs de Cavaillon, qu'également, un jour ou l'autre, il y aura un jugement. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle, dans un millénaire, je sais pas, Dieu tient parole, n'oublie pas, et un jour ou l'autre, il y a toujours un jugement. On ne peut pas se faire oublier de Dieu, qu'on soit un Amalécite ou un Cavaillonnais. Mais aujourd'hui, et c'est là où ce texte un peu nous choque, c'est que ce jugement, il est sanglant, il est total, il est brutal de notre point de vue d'occidental aujourd'hui. Nous retenons le côté sanglant de cette vengeance divine. Et moi-même, j'avoue, je ne suis pas 100% à l'aise avec toute cette violence. Mais je fais le choix de retenir deux choses de ce jugement. Je fais le choix. Je cherche à retenir déjà le fait que Dieu a tenu parole. Il avait dit quelque chose dans Exode 17 et il l'accomplit aujourd'hui. Et la deuxième chose que je retiens, c'est que le péché, le mal, doit non seulement être balayé, il ne doit pas être seulement, je veux dire, balayé, mis de côté, il doit être exterminé. Et que Dieu ne peut tolérer zéro, zéro, zéro. Et moi, et c'est là que je me rends compte que je suis bien plus conciliant avec le péché que Dieu ne peut l'être. Je suis bien plus conciliant avec le péché que Dieu ne peut l'être. Et justement, Saül, il a été relativement conciliant, arrangeant, accommodant avec le péché. Or, il estime que le roi Agag, ça ne sert à rien de le tuer, on va simplement le faire prisonnier, on va l'amener à Jérusalem et je vais rentrer triomphalement avec mon prisonnier sur mon char. Si on peut, quoi, c'est pas le... Et puis, concernant le bétail, oh, j'ai déjà tué plein de bétail, plein de bêtes, je peux bien me garder quelques agneaux, quelques bœufs. J'ai des invités, là, c'est dimanche prochain, ça me fera à manger. Saül est beaucoup plus conciliant avec le péché. Mais Dieu avait demandé à Saül de tuer toutes les bêtes, tous les hommes. Le roi comme les autres, les meilleures bêtes, les grasses comme les chétives. L'ordre était pourtant clair. Alors la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Saül ? Est-ce qu'il avait oublié tout le mal qu'avait fait le peuple amalécite ? Est-ce qu'il avait eu la mémoire trop courte concernant le mal passé ? Est-ce que nous aussi, des fois, on n'aurait pas la mémoire trop courte sur d'où on vient, qui on était avant que Dieu nous rachète ? A-t-il pensé, Saül, que faire prisonnier le roi Agag, c'était déjà pas mal ? Que tuer les bêtes chétives, c'était déjà pas mal ? Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais Saül a été trop conciliant, accommodant, arrangeant avec le péché. Et la question que je pose, c'est est-ce que nous, on ne fait pas pareil, parfois ? Et là, la réponse, malheureusement, oui. Et cette première partie nous rappelle l'intransigeance totale que nous devrions avoir avec le péché dans nos vies. L'intransigeance totale envers tout ce qui peut déshonorer Dieu dans nos vies. Si je vous donne un verre d'eau fraîche, t'as envie d'un verre d'eau fraîche ? Il est là. Je te donne un verre d'eau fraîche. Je te donne un deuxième verre d'eau fraîche, le même, mais avec une petite goutte de poison dedans. Oh, elle est toute petite, la goutte de poison. C'est pas bien grave. Évidemment qu'on choisirait le verre d'eau fraîche, même si la goutte est infime de poison. Voilà l'intransigeance et le niveau d'exigence que nous devrions avoir quand il s'agit d'être intransigeant avec le péché. Pour rien au monde, je boirais ce verre d'eau avec une toute petite goutte de poison dedans. Chers frères et sœurs, de même que Dieu a été sévère envers le peuple amalécite, nous aussi, soyons sévères et intransigeants, je vais y arriver, intransigeants, avec le péché dans nos vies. Deuxième partie, excusez-moi, j'ai changé l'ordre de mes parties, donc en fait, j'attaque par la 3 et je reviendrai à la 2. Mais bon, c'est pour ceux qui suivent. Deuxième partie, ce texte que nous avons lu ne nous parle pas simplement de l'obéissance, mais il nous parle de la complète obéissance. Et la nuance est grande entre une obéissance et une complète obéissance. Car au fond, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Saül, il n'avait pas tant désobéi que ça, franchement. Franchement, le peuple, il y avait 100 000 personnes, il les a tous tués sauf un. Mal quand même. Et les bêtes, il les a toutes tuées, bon, il a gardé quelques agneaux et quelques bœufs, mais il a quand même fait le gros du travail que Dieu lui avait demandé. C'est comme si moi je fais toute la maison et Léonore se plaint parce que j'ai oublié de peindre un millimètre carré dans un coin. J'ai déjà fait pas mal. Mais Saül avait fait une mini désobéissance. Et cette mini désobéissance était déjà de trop. Alors Samuel en profite pour prononcer une vérité essentielle. Il s'agit du verset le plus connu de 1 Samuel 15, voire même de 1 Samuel, et un des versets les plus connus de l'Ancien Testament, une vérité centrale, le verset 22. Est-ce que quelqu'un peut nous le relire ? Vous battez pas tous. Daniel, puisque tu as les cordes vocales échauffées.
L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion vaut bien le péché de divination et la résistance vaut l'injustice et les téraphimes.
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu préfère notre obéissance par-dessus tout. Par-dessus tout. Saül pensait qu'avec un sacrifice, ça permettrait de combler sa désobéissance. Allez, j'ai un peu désobéi, mais je vais faire un sacrifice et puis ça va passer. Et puis, Actuellement, je suis loin de Dieu. Mais je vais faire un sacrifice et ça va passer. Loin de Dieu parce qu'on se rend compte que Saül était loin de Dieu. Quand il parle de Dieu, il dit jamais « l'Éternel, mon Dieu ». Il dit « l'Éternel, ton Dieu ». C'est pas le mien, c'est l'Éternel, ton Dieu. Et il se dit « bon, j'ai désobéi, je suis loin de Dieu, mais on va faire un sacrifice. Adjugé vendu, ça va passer ». Mais Saül n'était pas le seul dans ce cas-là. Le peuple d'Israël lui-même est tombé à de très nombreuses reprises dans ce piège que les sacrifices pouvaient compenser un problème d'obéissance, un problème de pureté, un problème de péché. Vous connaissez ces passages que je vais lire rapidement de l'Ancien Testament, des autres prophètes, dans Amos 5 et dans Osée 6. Je vous donnerai les références si vous le voulez. Là, c'est l'Éternel qui dit « Je hais et je méprise vos fêtes ». Imaginons que Dieu nous dise « Je méprise vos cultes à Cavaillon ». Imaginez le choc que ça nous ferait. Dieu dit à Israël « Je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, j'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez, je ne les regarde même pas. Éloignez-moi le bruit de vos cantiques. » Je dis cantique, c'est pas Bernardo, hein, c'est cantique en général. Je n'écoute pas le son des luttes, mais au contraire, que la droiture soit comme un courant d'eau et que la justice comme un torrent. Et dans Osée 6, un peu plus loin, il met « En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu et non au sacrifice. » Dieu préfère l'obéissance, la connaissance, la pureté, la droiture au sacrifice. Vous allez me dire, mais pourquoi dans ces cas-là faire des sacrifices ? C'est pas que Dieu ne veut pas des sacrifices. Après tout, c'est lui qui les a instaurés dans le Lévitique. Il ne va pas nous reprocher de sacrifier des bêtes alors que lui-même nous a dit de sacrifier des bêtes. Mais Dieu a instauré les sacrifices et tout le rituel, un peu, de notre point de vue occidental, un peu lourd, tout ce rituel-là, non comme une fin en soi, mais comme un moyen de s'assurer et de vérifier l'obéissance de son peuple. Les sacrifices ne sont que l'expression de l'obéissance que nous devons avoir. Saül est tombé dans ce piège-là, le peuple d'Israël est tombé dans ce piège-là, et nous aussi, nous tombons dans ce piège-là. Mon assiduité le dimanche matin à l'église, mon engagement dans l'église, mes dons à des associations chrétiennes, peuvent peut-être compenser un péché que j'ai fait, peuvent peut-être masquer mon éloignement, ma tiédeur, mon manque de foi, mon obéissance incomplète. Personne n'y verra du feu. Dieu peut-être n'y verra du feu. Alors comme Saül et les Israélites, nous aussi, nous pouvons tomber dans ce piège encore aujourd'hui. Dieu prend plaisir en notre obéissance et surtout dans notre complète obéissance. Quel est ton prénom ?
Liam.
Liam, ta chambre, elle est en bazar complète. Ali arrive et dit, Liam, range ta chambre. Une situation qui doit arriver de temps en temps. Liam, range ta chambre. Regarde papa, j'ai rangé mes Playmobil. Oui, mais il faut ranger ta chambre. Les Playmobil, c'était qu'une partie de ta chambre. Regarde papa, si tu veux, on va faire une promenade ensemble, on va passer un bon moment. Liam, range ta chambre. Papa, regarde, je t'ai fait un cadeau, je suis allé chercher des... Bon, des fleurs, c'est un truc de fille, tu vas me dire. Mais bon, voilà, je t'ai ramené des fleurs. C'est gentil, Liam, mais range ta chambre. Papa, j'ai aidé maman à passer la serpillière dans le salon. J'anticipe un peu, mais... Liam, c'est gentil, mais range ta chambre. À la fin de la journée, Liam, tu as rangé tes Playmobil, ramené un bouquet de fleurs, mais ta chambre est en bazar. Bilan de la journée. Tu as obéi ou tu as désobéi à super papa Ali ? Dieu veut non seulement notre obéissance, mais notre complète obéissance. Il n'y a pas de petits péchés, de petites désobéissances qu'il puisse tolérer. Est-ce que moi j'accepterais que ma femme ne soit fidèle qu'à 99%? Est-ce que j'accepterais ça? Est-ce que vous accepteriez cela dans vos couples? Non. Dieu ne veut pas d'un sacrifice, d'un don, d'un sacrifice animal, d'un sacrifice charnel ou d'un don quelconque. Mais il veut que je me soumette à lui. Il veut que je lui obéisse et que je conforme ma volonté à la sienne. Non ma volonté, mais la tienne. En d'autres mots, le sacrifice qu'il nous demande, c'est le sacrifice de notre propre volonté humaine. Il ne veut pas que je sacrifie un animal. Il veut que je sacrifie ma propre volonté humaine à la sienne. Romains 12, les premiers versets nous disent « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Et ce sera un culte et un sacrifice raisonnable de votre part. » Voilà le sacrifice qui plaît à Dieu, celui de notre volonté humaine. Et ça se traduit par l'obéissance, par la complète obéissance. Dernière partie, chers frères et sœurs. L'accommodement avec le péché et la désobéissance sont une chose malheureuse. Mais il y a pire. L'entêtement et la non-repentance sont des choses bien pires. Et c'est ce dont nous parle principalement 1 Samuel 15. Vous avez vu, Saül lui arrive à désobéir, Samuel arrive et fait « C'est quoi que j'entends ça? Ce ne serait pas des animaux que j'entends? Qu'est-ce qu'ils font là ?» Et s'ensuit une grande discussion, c'est quasiment la moitié du chapitre, entre Samuel et Saül, entre le roi et le prophète, où Samuel exprime son désaccord et le jugement de Dieu, et Saül cherche coûte que coûte à se justifier et à s'innocenter. On va regarder rapidement les mauvaises attitudes de Saül dans ce chapitre. Premièrement, donc on a vu la désobéissance, on en a déjà parlé. Deuxièmement, la fierté personnelle. On voit dans les premiers versets que Saül, il est fier de sa victoire et il a la bonne idée de se construire un monument. Quel culot! Quel culot! Quelle fierté mal placée de se construire un monument à son honneur et d'accueillir le prophète Samuel comme si de rien n'était. Sois béni de l'Éternel! J'ai accompli la parole de l'Éternel. Quel culot a-t-il? Quelle hypocrisie! Comment est-ce possible d'être fier de son péché? Attitude suivante, l'accusation des autres, la lâcheté. Premier réflexe de Saül, c'est quoi son premier réflexe? Accuser le peuple. Ils ont pris des bêtes, tu fais bien Samuel, hein. Ils ont pris des bêtes, ils les ont gardées, et ils allaient se faire un festin. Accuser les autres. Et il dit bien, verset 20, j'ai accompli la parole de l'Éternel, et après verset 21, mais le peuple a gardé quelques bêtes de son côté. J'ai bien fait, mais ils ont mal fait. J'ai bien fait, mais ils ont mal fait. Quand tu te chamailles avec tes frères, tu dis la même chose, hein. On fait tous pareil. J'ai bien fait, ils ont mal fait. Quelle lâcheté! Ça me fait penser aux supporters de foot. On a gagné, ils ont perdu. On a gagné, ils ont perdu. Quelle lâcheté! Ils cherchent, c'est le roi d'Israël, le roi, et ils cherchent à se désolidariser son peuple. Quel culot! Suivant, la minimisation. Bon, une fois qu'il a compris que c'était lui, il cherche à minimiser. Ah, c'est pas bien grave, les bêtes, c'était pour un sacrifice. Est-ce que Saül, quand il a réservé ses bêtes, il voulait vraiment les sacrifier ou il voulait les garder? On peut en douter, hein. Quoi qu'il en soit, même si c'était pour les sacrifier, lors des sacrifices, il y avait une part non négligeable de la viande qui revenait à celui qui avait offert la bête. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faisait ses courses. Avant-dernière attitude, l'entêtement. Tu as mal fait? Non, j'ai bien fait. Tu as mal fait? Non, j'ai bien fait. Tu as mal fait? Ok, j'ai mal fait, mais... Saül s'entête et refuse de reconnaître son erreur. Et c'est qu'à la troisième fois que Saül admet du bout des lèvres avoir éventuellement peut-être fauté. On est au verset 24. Et encore une fois, il confesse non seulement, il confesse pas son erreur, il confesse d'avoir eu peur du peuple et de l'avoir écouté. Sous-entendu, c'est toujours le peuple le responsable. Au fond, il n'assume pas la responsabilité. Donc, est-ce qu'on peut parler de repentance ? On ne me la fait pas, à moi. Il dit « j'ai péché contre l'Éternel », mais on ne nous la fait pas. Dernière attitude mauvaise, où Saül s'enfonce, l'orgueil et le regard des autres. Ok, j'ai péché, si on veut, j'ai péché. Par contre, j'ai une solution. Tu vas me bénir devant tout mon peuple. Tu vas marcher à ma suite et tu vas me... Et tu vas faire semblant. Voilà la bonne idée qu'a Saül envers Samuel. Il est fou. Saül n'a qu'un seul objectif, ne pas perdre la face. Ni devant Dieu, ni devant Samuel, et surtout pas devant son peuple. Que le regard des autres importe. Saül insiste deux fois avant que Samuel, il accepte de revenir derrière Saül, mais bon, il a quand même prononcé un jugement entre-temps. Mais bon, Saül est content. Que de mauvaises décisions, que de mauvaises attitudes successives. Il s'enfonce, il a la possibilité de faire demi-tour, il s'enfonce coûte que coûte, par orgueil, il refuse de faire demi-tour. La personne de Saül, elle nous dérange, vous savez pourquoi ? Parce qu'elle nous ressemble. Saül nous dérange parce qu'il nous ressemble, car nous lui ressemblons. Nous aussi, on entre dans ce cercle vicieux de l'entêtement spirituel. C'est pas de ma faute. C'est de la faute de mes parents. Ils m'ont pas donné la bonne éducation. C'est de la faute de ma famille, de mon conjoint qui m'énerve, de la faute de mon voisin qui fait trop de bruit, de mon patron qui me met la pression, de la faute de tout le monde, mais pas la mienne. Adam et Ève avaient eu la même réaction. Jardin d'Éden. Pas moi. Deuxième attitude que nous avons malheureusement, c'est « Oui, j'ai péché, mais c'est pas trop grave, c'est un tout petit mensonge, un tout petit. Et puis, même si j'ai offensé telle ou telle personne, il s'en remettra, hein, c'est une grande personne, hein, c'est pas si grave, je suis pas le pire après tout. Il y a des personnes pires que moi, je suis pas le pire. » Dernière mauvaise attitude, « Ok, j'ai mal fait, mais surtout, ne demandons pas pardon, ni à Dieu ni aux autres. Je ne veux pas perdre la face. Je veux pas que ça se sache. » La confession, qu'elle soit publique ou privée, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et combien de fois, chers frères et sœurs, nous privilégions notre apparence extérieure à notre santé intérieure. Saül nous dérange, car il nous ressemble. Donc ne prenons pas exemple sur lui. À nous d'être vigilants et de ne pas se laisser entraîner dans ce cercle vicieux. Sachons faire demi-tour. Conclusion. Voilà un drôle de bilan pour le premier roi d'Israël. Un roi qui devait diriger et conduire le peuple, qui devait être un modèle et qui se transforme en un mauvais exemple à fuir, un exemple de désobéissance et surtout d'entêtement et de non-repentance. Dieu donc décide de retirer la royauté à Saül qui venait pourtant de lui donner, et il décide de lui donner à quelqu'un de meilleur. On verra dans 15 jours, je suis de nouveau de prédication, on verra dans 15 jours qu'il s'agit du roi David. David sera un roi meilleur que Saül, mais pas pour autant un roi parfait. Car Dieu a surtout en ligne de mire le roi parfait qui viendra un jour. Le roi parfait qui saura obéir pleinement. Comme nous, ce roi aura à apprendre l'obéissance envers Dieu le Père. Ce roi aura à apprendre l'obéissance à un niveau bien plus élevé que Saül ou le nôtre. Car là, on ne parle pas de la mort d'un mouton ou d'un bœuf, mais on parle de sa propre mort, de son propre sacrifice. Bien qu'étant fils, nous dit Hébreux, il a dû apprendre l'obéissance parce qu'il a souffert. Et Philippiens 2 nous dit que ce roi s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Alors, reconnu comme un homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Alors ce chapitre de 1 Samuel 15, chers frères et sœurs, avec le roi Saül qui désobéit et s'entête, nous donne encore plus envie de rencontrer et de connaître ce roi parfait qui a appris l'obéissance jusqu'à la croix. Et nous sommes au bénéfice, et c'est la bonne nouvelle, nous sommes au bénéfice de ce roi. À l'époque d'Israël, quand un roi faisait des bonnes choses, alors il y avait des bénédictions pour tout le peuple, la paix. Par contre, quand le roi était infidèle, alors c'était la galère pour tout le monde. L'obéissance, la fidélité du roi conditionnait l'ensemble du peuple. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans ce cas-là. Et nous sommes au bénéfice de l'obéissance du roi dont nous sommes le peuple. Et notre salut repose non sur mon obéissance, heureusement, mais sur l'obéissance du roi auquel j'appartiens. Donc je vous encourage ce matin à ne pas prendre exemple sur le roi Saül, mais à prendre exemple sur le roi parfait, Jésus-Christ, pour son obéissance totale et sa fidélité. Dans 15 jours, nous irons à la rencontre d'un autre roi d'Israël, David. Et nous verrons que lui aussi, la vie du roi David, pointe vers le roi parfait qui est Jésus-Christ. Amen.